Bonjour à tous et bienvenue sur Fréquence Sillé 97.9 FM. Vous écoutez Seconde Actu, une émission réalisée par les élèves de seconde de la cité scolaire Paul Scarron. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le studio avec trois élèves de seconde B qui seront remplacés, consigne sanitaire oblige, par trois de leurs camarades après la pause musicale. En cette période de rentrée, marquée par la pandémie et les attentats, notre émission d'aujourd'hui, hélas, va s'ouvrir sur des sujets assez déprimants. Mais nous espérons pouvoir compenser cela par une deuxième partie un peu plus détendue, qui abordera des sujets essentiellement culturels. Je vais laisser immédiatement nos chroniqueurs du jour se présenter. Bonjour Alicia.
Bonjour.
Alors, pas trop intimidée?
Un petit peu, c'est la première fois, mais ça va
première
aller.
Première fois que tu fais de la radio?
Oui.
D'accord, et donc... petite appréhension naturelle.
Oui.
Mais je pense que ça ira. Ton sujet aujourd'hui, c'est
Les innocents du Covid.
Très bien. Bonjour Noah.
Bonjour.
Déjà fait de la radio, Noah?
Oui, c'est ça.
Ici même?
Oui.
Donc à Fréquencier?
Oui.
Plusieurs expériences?
Oui, deux.
Deux expériences. Et alors, c'était bien?
Oui, ça va.
T'en es pas mort? Donc je pense qu'aujourd'hui, ça ira également. Et donc toi, tu vas nous parler...
de la fonte des glaciers.
Voilà, encore un sujet bien déprimant, mais ce n'est pas grave. La période est à la déprime. Bonjour Manon.
Bonjour.
Ça va?
Ça va.
Première expérience de radio pour toi?
Oui, première.
D'accord. Et tu appréhendes?
Un petit peu. C'est bon. Un petit peu stressant.
Oui, logique. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
De l'assassinat de Samuel Paty.
Très bien. Eh bien, nous commençons. Et c'est Alicia tout de suite qui va ouvrir l'émission avec un sujet sur le Covid, mais pas pour parler des victimes auxquelles on pense d'habitude, mais à des victimes auxquelles on pense un peu moins, c'est-à-dire les animaux.
Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des innocents du Covid. Donc en France, comme vous le savez, à la mise en place du confinement, les SPA ont été contraintes de fermer, qui, je rappelle, SPA ce sont les refuges de sociétés protectrices des animaux. Donc beaucoup d'animaux, principalement des chiens et chats, ont été ramassés par les fourrières, qui eux ont ni la capacité ni la possibilité de les accueillir au-delà de 10 jours avant d'être euthanasiés. Donc après 4 semaines de fermeture, le président bénévole de l'association Jean-Charles Fombonne a demandé au ministère de l'Intérieur une autorisation pour continuer les adoptions auprès des 55 refuges de la SPA. Donc le gouvernement a finalement accédé à celle-ci par la Société protectrice des animaux, par une dérogation pour la reprise des adoptions pendant la période du confinement. Donc cette œuvre a permis à l'association de sauver environ 400 animaux, depuis la reprise, par l'unique condition imposée qui consiste à limiter les contacts, ce qui est tout à fait normal en cette période. Donc les salariés ont dû apprendre une nouvelle organisation pour les adoptions, que ce soit entre eux dans les refuges ou avec ceux qui viennent les adopter, ou encore de modifier leur site par des photos ou vidéos afin de pouvoir mieux visualiser les animaux pour les familles qui seraient intéressées. Donc tout comme aussi de créer... un dispositif informatique spécifique, surtout pour la communication, et aussi d'acheter du nouveau matériel neuf pour chaque adoption. Donc, pour finir, ce sujet est directement lié à la fondation 30 millions d'amis, qui a lancé une campagne contre l'abandon des animaux domestiques. Donc, c'est une pub qui circule sur tous nos écrans, où un chien est abandonné et se retrouve au banc des accusés devant le tribunal. Il a alors jugé et condamné à la peine de mort pour seul motif d'avoir été un animal de compagnie aimant et fidèle. Donc cette vidéo a été réalisée par l'actrice Mae Wen avec l'agence Atman et Pacro. Donc cette vidéo a été lancée sur YouTube le 28 septembre. Et en France, comme vous le savez, la peine de mort n'existe plus, sauf pour les innocents, comme nous le démontre cette vidéo. Et c'est ce qui reflète exactement ce qui s'est passé lors des fermetures des SPA pendant le confinement ou aussi avant. Donc voilà le tragique sort qui arrive aux animaux abandonnés car les refuges sont saturés.
Merci Alicia. Donc c'est vrai que c'est un sujet auquel on pense peu finalement. On est très préoccupé par notre sort à nous, mais la cause animale est importante. Alors pour toi, la cause animale, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce sujet en
fait? C'est quand même tragique que des animaux se retrouvent euthanasiés parce qu'ils ont été abandonnés par des propriétaires pendant le confinement.
Oui, en effet. Et vous avez des animaux, Manon, Noah?
Oui, moi j'en ai beaucoup.
T'en as beaucoup?
Oui.
À ce point-là? Qu'est-ce que tu as comme animaux?
J'ai un chat, des poules, des oies, des biquettes, tout ça.
Ah oui, d'accord. Donc une véritable ferme, en fait. Oui. Manon?
Deux chiens, un chat, des moutons,
des poulets. Ah oui, d'accord. Et donc vous, ça vous... qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire d'abandon d'animaux?
Je trouve ça très triste, en fait.
Oui.
Ça me répugne.
D'accord, carrément.
Oui.
T'as raison, Manon.
Que c'est pas normal que les animaux soient oubliés.
D'accord, donc merci Alicia pour ce sujet. Je vais maintenant donner la parole à Noah, puisque en fait, Au-delà de la cause animale, les activités humaines ont des conséquences également au niveau global et sur la planète tout entière. Et donc Noah va nous parler donc de la fonte des glaciers.
Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui traite la fonte des glaciers. Je vais commencer par vous dire que la Terre au total a perdu 28 milliards de tonnes de glace en 23 ans seulement, ce qui est énorme. Pour donner un ordre d'idée, la glace qui a fondu depuis 1994 représente la superficie du Royaume-Uni avec une couche de 100 mètres d'épaisseur. D'après les scientifiques, la montée du niveau des mers déclenchée par la fonte pourrait atteindre 1 mètre d'ici la fin du siècle. Si la montée des mers continue à augmenter ainsi, les personnes vivant dans les zones côtières sont menacées et devront exiler ailleurs. Le nombre de personnes qui devront exiler est d'environ 280 millions. Une étude a démontré que si rien n'était fait d'ici 2100, les glaciers des Alpes risqueraient de fondre à 90%. Une étude de chercheurs a démontré que le Groenland et l'Antarctique avaient perdu 6400 milliards de tonnes de glace en 25 ans avec une accélération des 6 fois la fonte. En 2019, une autre étude annonça que les deux tiers des glaciers himalayens se verraient peut-être disparaître à la fin du siècle. Certains glaciers permettent de fournir de l'eau en été à des millions de personnes et ils sont menacés. Je vais vous expliquer pourquoi il y a une grosse fonte des glaciers. C'est hélas tout simplement à cause des hommes et de leur activité humaine. Les activités humaines de l'homme produisent beaucoup de gaz à effet de serre et ce qui engendre un réchauffement climatique dans le monde entier. Un autre problème a été annoncé par une étude suisse, c'est lorsque les glaciers fondent, ils relâchent des polluants qui avaient été enfermés dans la glace auparavant et la présence de pesticides a été aperçue dans les eaux d'un lac en contrebas d'un glacier. Pour éviter le réchauffement climatique, essayez si cela est possible d'utiliser le vélo ou marcher pour se déplacer, éteindre la lumière quand vous sortez d'une pièce ou même débrancher la télé quand vous ne l'utilisez pas, prendre une douche plutôt qu'un bain mais encore sécher son linge à l'air libre au lieu du séchoir. Il y a plein d'autres manières d'éviter le réchauffement climatique, donc si vous voulez en savoir plus, vous trouverez tout sur internet. Je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci Noah. Donc pourquoi choisir ce sujet?
Je m'intéresse beaucoup à la nature et de voir le réchauffement climatique s'accumuler, ça m'énerve un peu.
Ça t'énerve un peu, donc tu as décidé d'en parler aujourd'hui.
Voilà.
En effet, donc, et puis on sait pertinemment que ce sont les activités humaines qui provoquent ça. Hein. D'ailleurs, un rapport de l'ONU paru hier nous précisait que c'est bon, hein, c'est prouvé. Les êtres humains provoquent ce réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité également, provoque également la réapparition et la contamination par des virus, dont le Covid est un bon exemple, mais il y en a des beaucoup plus dangereux, probablement, sous les glaces de l'Antarctique, etc. Un virus préhistorique contre lequel nous ne sommes vraiment pas armés pour nous défendre. Et il faudrait également faire attention à tout cela. Vous y faites attention au réchauffement climatique au quotidien, dans vos gestes au quotidien?
On essaye.
On essaye. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Les gestes, comme Noah a pu évoquer, éteindre l'eau quand on ne l'utilise pas, éteindre tout ce qui est électronique aussi, dès qu'on le peut.
Oui. Et est-ce que c'est suffisant d'après vous, Manon?
Non.
Non?
Non.
Comment faire? Alors, comment sortir de ce problème? Pas de réponse. Je pense que personne n'en a, en fait. Hormis peut-être changer radicalement de mode de vie, mais nous y sommes petit à petit amenés par les événements récents. Je rebondis également sur le sujet suivant, avec les animaux, qui sont victimes du Covid également. Hier également est apparu dans le Figaro notamment un article qui racontait qu'au Danemark ils vont abattre 15 millions de visons, 15 millions de donc ces petits animaux, ces petits rongeurs qui servaient jadis à faire des fourrures, 15 millions de visons qui sont victimes d'une mutation du virus Covid-19. Et le problème c'est que ce virus mutant dans un animal, le risque pour nous c'est qu'il complique évidemment l'efficacité du vaccin. On essaye de concevoir, puisque ce sera une autre forme du virus qui sera passée à nouveau par un autre animal. La proximité de la vie entre les êtres humains et les animaux provoque justement de plus en plus de problèmes. Les pandémies s'accélèrent et nous en aurons de plus en plus, une tous les 10 ans, d'après ce rapport de l'ONU. Donc nous serons tous ici amenés à revivre ce que nous vivons aujourd'hui. Merci donc pour ce sujet, Noah. On va changer de sujet, mais toujours quelque chose d'assez grave, puisque Manon a choisi de nous parler de l'assassinat de Samuel Paty.
Bonjour, je vais donc vous parler de l'assassinat de Samuel Paty. Samuel Paty, né le 18 septembre 1973 à Moulins dans l'Allier, père d'un jeune garçon âgé de 5 ans, étant marié, était un professeur d'histoire-géographie âgé de 47 ans, faisant étudier au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. depuis 3 ans réputé pour être un enseignant joyeux, blagueur et qui respirait la joie de vivre, a été assassiné, décapité le 16 octobre 2020 aux alentours de son lieu de travail par arme blanche après avoir montré le 5 octobre 2020 deux caricatures du prophète Mahomet issues de Charlie Hebdo à ses élèves de 4e lors d'un cours d'enseignement moral et civique sur la liberté d'expression, ce qui a suscité la colère d'un parent d'élève musulman. Ensuite, ce parent d'élève et le militant islamiste publie sur différents réseaux sociaux des vidéos dans lesquelles il traite Samuel Paty de voyou et de malade, avant de divulguer son nom et l'adresse de l'établissement scolaire où il était exercé. Ces vidéos divulguées suscitant de nombreux messages haineux envers cet enseignant avant la réalisation de cet attentat. Cet attentat provoque de vives réactions en France et à l'étranger. De nombreuses manifestations populaires sont organisées en mémoire de l'enseignant assassiné, et un hommage national lui a été rendu à la Sorbonne, qui est un bâtiment du quartier latin dans le 5e arrondissement de Paris, le 21 octobre 2020. Le lundi 2 novembre fut une rentrée de vacances de la Toussaint toute particulière, car tous les élèves de France, du CP à la terminale, eurent participé à une minute de silence en hommage à cet enseignant.
Merci Manon. Alors, tu as choisi ce sujet, pourquoi ?
Car je trouve que c'est triste d'en arriver à de tels actes.
C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, cette minute de silence, donc, on l'a réalisée la semaine dernière, il me semble, à 11h. Comment vous l'avez vécu ?
J'ai trouvé ça très spécial. Surtout que les profs ne voulaient pas s'exprimer sur le sujet. C'était très flou.
Alors, est-ce que tu sais pourquoi les professeurs ne voulaient pas s'exprimer sur le sujet ?
Non, j'ai pas compris.
Et vous alors, Manon, Alicia, comment ça s'est passé cette minute de silence ?
C'est quand même le moins qu'on pouvait faire pour lui, décédé quand même. Il n'y avait pas de souci pour le faire.
Mm-hmm. Mais cette lettre, c'est un peu floue.
La lettre donc, de Jean Jaurès qui a été lue, alors qu'est-ce que vous en avez compris ? Est-ce que c'était pertinent pour vous de lire cette lettre ?
Déjà, c'est une vieille lettre qui date, je crois.
Oui, un petit peu.
Non, j'ai pas beaucoup compris, j'ai compris un petit peu.
On a compris le lien entre l'enseignant et l'élève, mais après...
Oui.
Exactement pareil.
Et au-delà de ça, le rapport entre l'événement et la lettre de Jean Jaurès, vous êtes apparu ou pas ?
Pas trop.
Alors nous, on était aussi assez perplexes au niveau des enseignants de lire cette lettre, parce qu'en fait, c'est une lettre qui s'adresse aux enseignants. Oui. Donc, on n'a pas trop compris, nous, pourquoi on vous lisait une lettre qui s'adressait aux enseignants. Je pense que derrière, il y avait cet esprit républicain du fait que l'école, évidemment, c'est l'émancipation de l'esprit et qu'on ne peut pas attaquer l'école puisque c'est un facteur de liberté dans le pays. Mais en effet, donc, ça a été très improvisé et c'est pour ça, je pense, que les professeurs ne sont pas exprimés en classe. Moi-même, j'avais pas cours, donc je n'ai pas eu le problème. Mais j'aurais eu bien du mal à m'exprimer sur le sujet, n'étant pas préparé. Aux événements, et puis surtout c'est arrivé comme ça, on a décidé qu'il fallait qu'on parle, qu'on fasse une minute de silence et qu'on lise une lettre comme ça. Un petit détail intéressant, un certain nombre de passages de la lettre ont été enlevés, sachez-le, et dans tous ces passages qui ont été enlevés étaient des passages qui critiquaient le ministère de l'Éducation nationale. Voilà qui pose plusieurs problèmes du point de vue des professeurs. Donc ça explique aussi leur réticence, je pense, en tout cas ici, mais j'en ai entendu parler en salle des profs, à parler de tout ça, et à jouer ce jeu de rôle un petit peu. Bien, en tout cas, l'hommage a été rendu, il n'a pas été perturbé.
Non, pas vraiment.
Bon, alors au-delà, la lettre, peut-être pas pertinent, mais en tout cas, la minute de silence, ça vous paraît justifié ?
Oui.
D'accord. Merci bien pour ce sujet, Manon. Donc, on va se détendre un petit peu avec la pause musicale. Maintenant, on va changer un peu d'univers. Nous allons écouter un morceau de Stevie Wonder, un morceau de jazz qui s'appelle Sir Duke. Un morceau de 1976 en hommage à un autre musicien de jazz, une légende, Duke Ellington.
Because the record has a groove, don't make it in the groove. But you can can tell right away a doctor, hey, when the people start to move.
Nous sommes de retour pour l'émission Seconde Actu présentée par les élèves de Seconde B. Pendant la pause musicale, les intervenants ont changé. Je vais donc tout de suite les laisser se présenter. Bonjour Louise.
Bonjour.
Tu as déjà fait de la radio, Louise?
Oui.
Ici même, à Fréquencier ou ailleurs? Tu peux nous expliquer?
C'était dans mon école primaire en CM2. Une radio était venue et on avait préparé nos sujets.
Et... D'accord. Et ça avait... c'était bien?
Oui.
Voilà. Et donc là, aujourd'hui, tu es stressée?
Un peu, mais ça va.
Ok, parfait. Et tu vas nous parler?
D'un livre qui s'appelle Hashtag Bleu.
Et donc, je vais aussi te demander tout de suite, avant de passer aux autres, pourquoi tu as choisi celle-ci? C'est toi qui as choisi la chanson de Stevie Wonder, combien de temps? Alors, pourquoi?
Je l'ai choisie parce que elle dit que la musique réunit les personnes, et je trouve que c'est vrai, et je trouve ça important.
Tout à fait. Tu es musicienne, toi-même?
Oui.
Tu pratiques un instrument, lequel?
Oui, je fais du piano depuis 9 ans.
Ah, d'accord, super. Bonjour, Tom.
Bonjour.
Alors, c'est une première pour toi ou pas?
Non, pas du tout. J'ai déjà fait 2 fois de la radio ici.
Mm-hmm.
Et j'en garde un bon souvenir.
Donc, tout va bien aujourd'hui. Tu vas nous parler
D'un jeu vidéo qui s'appelle Among Us.
Ok, très bien. Il nous reste donc maintenant Julie. Bonjour, Julie.
Bonjour.
Est-ce que ça va, Julie? Pas trop intimidée?
Ça va.
Bon, tu vas nous parler de quoi, toi?
De la cathédrale Saint-Julien du Mans.
D'accord. Donc, tu t'intéresses à l'histoire?
Bah oui, c'est local, du coup, ça m'intéresse.
C'est local, ok, très bien. Eh bien, c'est parti. Donc, Louise, allons-y. Alors, tu vas nous parler de ton livre qui s'appelle Hashtag Bleu.
Oui, donc je vais vous parler de livre qui s'appelle Hashtag Bleu, écrit par Florence Inkel, de l'édition Pocket Jeunesse. Donc, il s'agit d'un roman prédestiné aux adolescents, mais qui peut très bien convenir aussi à un adulte, car il contient une morale très forte qui fait réfléchir, peu importe notre âge.
Scylla, le personnage principal, vit dans un monde futuriste où la société n'accepte pas que la population souffre. Ils ont donc créé une cellule d'éradication de la douleur émotionnelle, appelée CEDE, surnommée aussi les agents en combinaison jaune qui effacent la douleur des individus. Fini les dépressions et les deuils. Toute la douleur créée par ces événements est effacée. La personne se souvient de tout, mais n'en souffre plus. La seule chose qui montre que cette douleur a été effacée, c'est un point bleu qui apparaît sur leur poignet. Scylla, lui, subit une grande peine de cœur due au décès de sa copine. Il ne veut pas aller à la CEDE, car il veut garder cette douleur qui, pour lui, prouve qu'il l'aime, mais ce n'est pas lui qui décide car il n'est pas majeur. On se rend compte au fur et à mesure de la lecture que plus les personnes passent à la CEDE, moins ils ressentent de sentiments. Ce roman nous montre que pour être heureux, il faut aussi être malheureux par moments, car on ne peut se rendre compte qu'on est heureux si on n'a jamais été malheureux. Le malheur crée en nous un sentiment qui nous aide à vouloir être heureux, à vouloir profiter de la vie. Si une personne ne connaît pas la tristesse, elle n'éprouvera plus la joie des moments en famille ou entre amis. Ce roman m'a beaucoup fait réfléchir au sens de la vie. Je me suis questionnée sur moi-même et quand je suis en période triste, je repense toujours à ce roman et me dis que c'est qu'une passade et que c'est grâce à ça que je vais être heureuse plus tard. Je conseille vraiment à tout le monde de le lire. En plus, pas besoin d'être un grand lecteur, car il est très bien rédigé, ce qui permet une lecture fluide et très agréable.
Merci. Alors, est-ce que tu lis beaucoup en général ou...
Oui.
Oui, d'accord. Et ce roman-là en particulier, donc c'est la morale qui t'a plu, je crois.
Oui.
Ça fait écho à une expérience personnelle. Tu souhaites... si tu devais aller à la CEDE, toi, tu irais?
Non, j'irai pas.
Non, et vous, autour de la table?
Non.
Je pense pas non plus.
Non, il faut quand même avoir quelques épreuves dans la vie pour grandir déjà, et puis pour apprendre en effet à apprécier la vie au quotidien et tout ce qu'on peut avoir. Est-ce que la science-fiction, c'est un genre qui te plaît particulièrement?
Ça dépend, j'aime pas le côté science-fiction négatif. Enfin, pas négatif, mais dans le sens assez violent. Je suis plus dans le calme.
D'accord. Et tu as d'autres romans de ce genre que tu recommanderais ou pas?
Lui, c'est vraiment mon préféré. Après, le reste que je lis, c'est plus trop la science-fiction.
D'accord, ok. Alors, écoute, merci pour cette minute culturelle. Nous allons poursuivre d'ailleurs cette rubrique culturelle avec Tom maintenant, mais dans un autre registre, puisque nous allons parler de jeux vidéo. C'est parti.
Donc moi aujourd'hui je vais vous parler du jeu vidéo Among Us. Donc Among Us c'est un jeu vidéo sur mobile et PC. Le jeu est très populaire en ce moment et compte plus de 100 millions de téléchargements sur le Play Store. Donc le but du jeu Among Us c'est de trouver l'imposteur. Donc 10 personnes sont sur un vaisseau qui dysfonctionne. Le but des innocents c'est de réparer le vaisseau en faisant des quêtes, des missions sans se faire tuer par les imposteurs, qui eux auront comme mission de tuer les innocents sans se faire remarquer. Et si un innocent remarque un imposteur tuer un autre innocent, il peut le signaler aux autres passagers du vaisseau pour ensuite débattre sur qui peut être un imposteur. Après une longue conversation entre les passagers du vaisseau, les passagers font un vote pour décider de qui vont-ils éjecter du vaisseau, donc pour éjecter l'imposteur, le traître. La partie se termine quand tous les imposteurs sont éjectés du vaisseau ou que les imposteurs ont tué tous les innocents ou alors que les innocents ont fait toute leur mission et que le vaisseau redémarre. Je trouve que ce jeu il est bien parce que c'est un jeu qui est stressant mais c'est aussi un jeu de logique et de stratégie. Donc c'est le genre de jeu qui me plaît. Et voilà.
D'accord, et donc tu y joues beaucoup ? J'espère pas trop.
Beaucoup, non, mais quand je sais pas quoi faire, ouais, je joue.
Alors, c'est un jeu en ligne, les participants du jeu, ce sont des gens que tu connais ou ce sont des gens que tu ne connais pas?
Pas forcément. Je peux jouer avec des gens que je connais, donc on organise des parties, mais aussi
des fois avec des inconnus.
Sur des gens, on connaît pas.
Alors, ça reprend le principe de la murder party, en fait. Tu en as déjà fait?
Pas en vrai, mais oui, pareil, j'ai déjà joué à un jeu vidéo de murder.
D'accord. Fait penser aussi à un jeu de cartes qui s'appelle Loup-garou, je crois.
Oui.
Oui, hein, c'est un peu le même principe avec ce vote des citoyens du village, en fait, des villageois à la fin. D'accord, donc une habile combinaison de différents systèmes de jeu, de mécanismes de jeu. Vous jouez aux jeux vidéo, vous, les filles?
Moi, je joue à la Nintendo Switch.
D'accord.
Voilà. Et moi, je joue pas aux jeux vidéo.
Pas du tout. Ça t'intéresse pas.
Non, c'est pas mon truc.
Pas cher lire des livres. Ok, très bien. Merci Tom. Dernier sujet. C'est à Julie maintenant de parler, et elle va nous parler de la cathédrale Saint-Julien du Mans. Mais tout de suite, alors c'est un sujet surprenant, ça, dis donc. Qu'est-ce qui te pousse à parler de la cathédrale Saint-Julien du Mans?
Je voulais savoir comment elle a été construite, ce qui s'était passé.
Une future historienne, alors peut-être, parce que ça n'intéresse pas tout le monde non plus.
Non, mais ça m'intéresse sur ce sujet-là.
D'accord, très bien. Allez, on te laisse commencer ton sujet.
La construction commence au XIe siècle et se finit au XVe siècle. Son style est roman gothique en juin. La cathédrale est classée monument historique en 1862. Les travaux de la cathédrale du Mans commencent en 1056 par l'évêque Vulgain. Mais 10 ans après cette première construction, elle s'écroule. En 1067, un autre évêque reprend les travaux. Puis en 1120, la cathédrale est considérée comme achevée. Mais un orage en 1134 a provoqué un incendie à la cathédrale. Ensuite, 4 ans après, un autre incendie s'est déclaré. Ils inaugurent la nouvelle cathédrale le 18 avril 1158. Puis, les travaux recommencent en 1220. Après des années de travaux et de modifications, la guerre de Cent Ans fait arrêter les travaux. La cathédrale fut finie comme nous la voyons aujourd'hui en 1430. Elle aurait dû être encore agrandie vers 1500, mais il n'y avait plus assez d'argent. La cathédrale a été épargnée des deux guerres mondiales. Cette cathédrale a été le monument le plus visité des Pays de la Loire en 2009. Elle est mise en valeur l'été pendant la Nuit des Chimères.
Bien, alors tu l'as visitée toi-même ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Bah, elle est jolie. Après, ça fait un moment que je suis pas allée, mais c'est beau.
Oui, c'est beau, je trouve ça beau. Vous êtes d'accord ? Vous l'avez vu, vous, la cathédrale ? Non ?
Aussi, oui.
Oui, alors qu'est-ce que tu en penses également ?
Bah, je la trouve majestueuse, enfin, je sais pas comment dire.
Oui, c'est immense, hein.
Ouais. J'ai
l'impression, une cathédrale, en même temps, c'est grand. Et c'est vrai qu'elle a été quand même une histoire. Il a fallu combien de temps ? Donc 3 siècles pour la construire. Donc c'est quand même considérable. On ne réalise pas aujourd'hui, mais c'est vrai que les chantiers de cathédrale, ça prenait des siècles. On essaye, on mourait sur le chantier de la cathédrale pour aboutir à sa construction finale. Et tu parlais donc de la Nuit des Chimères également.
Oui.
Donc vous êtes allé à la Nuit des Chimères, oui ?
Non plus.
Non, non. Et toi ?
Oui.
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 Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette manifestation ?
Ça met en valeur, il n'y a pas que sur la cathédrale, il y a aussi sur la muraille, et c'est joli.
C'est joli, d'accord. Manon, qu'est-ce que tu en penses ? Louise, pardon, autant pour moi, ça m'arrive souvent.
Oui, moi aussi je trouve ça joli, original, et ça lui donne un autre aspect.
D'accord.
Avec les couleurs, ça l'a...
Je ne sais pas si on peut encore la visiter, d'ailleurs, aujourd'hui, avec les consignes sanitaires.
Si, mais il y a des restrictions strictes.
D'accord. Ouais. Bon, c'est bon à savoir. Eh bien, merci à tous et à toutes. Voilà, Seconde Actu, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous remercions Gabriel à la technique, ainsi que toute l'équipe de Fréquence Sillé 97.9 FM. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site internet de Fréquence Sillé, fréquence-sillé.org. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir.